Bonjour, samedi 18 novembre, merci d'être au rendez-vous. Nous allons revenir sur 7 jours d'événements avec bien sûr les reportages de la rédaction.
Une semaine d'actualité, Pierre-Edouard Deldic.
Destination prévue, Bonn, Paris, Jérusalem. Après le flash, nous partirons pour l'Afrique, à Harare bien sûr, mais aussi à Kinshasa. Rendez-vous également avec vos messages. Cette semaine, il va être question d'environnement dans la perspective de la COP23 à Bonn, avec notre invitée Valérie Cabanès qui œuvre pour la reconnaissance des droits de la nature et du crime d'écocide. Une semaine d'actualité donc, un magazine que vous pouvez retrouver sur le site de la radio RFI.fr. Et d'abord ceci pour donner le ton avant de parler de cette COP23 de l'état de la planète. Une étude qui montre que les émissions mondiales de carbone repartent à la hausse. Simon Rosé.
Depuis 3 ans, les émissions de carbone dans l'atmosphère par l'homme semblaient se stabiliser, mais cette bonne tendance n'aura pas duré très longtemps puisque les voilà une nouvelle fois repartis à la hausse. Pour les chercheurs de l'université anglaise East Anglia, à l'origine de cette étude, c'est principalement du côté de la Chine qu'il faut regarder pour trouver les responsables. Les émissions de carbone y ont progressé de 3,5%, principalement à cause du charbon. C'est dommage car depuis 4 ans, c'était l'inverse et on observe d'ailleurs le même phénomène aux États-Unis. Au total, ce sont donc 41 milliards de tonnes de gaz carbonique relâchés dans l'atmosphère cette année, c'est un record. Il y a cependant des régions du monde qui émettent moins que par le passé, c'est le cas de l'Europe par exemple. Et fait intéressant, les chercheurs ont comparé cela à l'évolution du PIB. Il a progressé de plus de 2% sur le vieux continent, preuve que développement économique n'est pas incompatible avec une certaine sobriété dans les émissions de gaz à effet de serre.
Il faut aussi noter le cri d'alarme et une alerte solennelle cette fois de plus de 15 000 scientifiques du monde entier qui indiquent que toutes les voyants sont au rouge. Tous les indicateurs montrent une dégradation alarmante de l'environnement à cause de l'activité humaine, qu'il s'agisse de la Terre et qu'il s'agisse des océans. Bonjour Valérie Cabanès.
Bonjour.
Vous avez lu ce cri d'alarme qui est absolument effrayant.
Oui, il est effrayant.
Vous, il ne vous a pas étonné, j'en suis sûr.
Non, mais... il ne m'a pas étonné. Et puis, je trouve que ces cris d'alarme se répètent semaine après semaine depuis maintenant... 1-2 ans.
Là, ce sont 15 000 scientifiques du monde entier, 184 pays.
Oui, et c'est vraiment en prenant en compte justement ces données scientifiques et ces alertes scientifiques que l'on pourra repenser jusqu'à notre droit, parce que il va falloir aujourd'hui que la justice s'appuie sur la réalité scientifique pour pouvoir déterminer quelles sont les limites de l'activité humaine sur Terre. Tout simplement pour pouvoir préserver la survie de l'humanité à long terme.
Alors j'ai oublié de dire que vous êtes juriste, spécialiste de droit international, spécialiste des droits de l'homme aussi. Vous avez eu beaucoup d'expérience sur le terrain, comme on dit, et aujourd'hui vous réfléchissez à cette expérience et aux moyens d'améliorer la situation qui en a grandement besoin. Et vous venez notamment de publier ce dernier livre en date qui s'appelle Homo Natura, en harmonie avec le vivant, où vous insistez, vous faites le bilan aussi de l'état de la planète, mais vous insistez sur cette situation étrange, vous écrivez, nous restons plongés dans un déni troublant, une léthargie. Les informations ont beau arriver, et de plus en plus vite, de plus en plus alarmantes, rien ne se passe, ou presque.
Oui, je crois qu'on est, effectivement dans une nouvelle étape, nous sommes enfin sortis du déni. Il faut quand même comprendre que depuis le Rapport Meadows, depuis le premier sommet de la Terre en 72.
72, oui.
Oui, 72. On nous alerte sur ce qui va se passer, on nous alerte sur la finitude des ressources naturelles, sur les risques de crise économique, les risques de conflits, face au fait que nous sommes en train de dépasser toutes les limites planétaires qui constitue aujourd'hui,
à notre disposition, ouais.
Oh, absolument. Mmh. Et là, nous sommes dans un état de sidération, c'est-à-dire, et ça se sent aussi même chez les jeunes, une sorte d'effroi face à ce qui nous attend, parce que c'est effroyable. Et je crois que Jean Jouzel disait en juin au G20, il nous reste 3 ans pour agir. Il faut absolument sortir de cet état de sidération et se mettre en action.
Alors on va reparler des réflexions que vous rédigez dans le livre. 2 ans après la COP21 et les engagements de 169 États, là aussi on ne peut pas être très optimiste.
Non, la COP23 vient de se terminer, en dehors du fait que effectivement les Américains ont bien signifié que Il était hors de question pour eux de réintégrer cet accord, ce que je trouve quand même au passage absolument incroyable, c'est-à-dire que la décision d'un président, d'un État puisse avoir des conséquences sur l'humanité tout entière et qu'il ne puisse pas répondre.
Alors, je précise que dans le livre, vous préconisez qu'il soit face à la justice.
Oui, je pense que les dirigeants des États, les dirigeants des multinationales, les dirigeants des banques qui soutiennent effectivement des activités qui sont destructrices pour la nature et pour l'avenir des générations futures, devraient devoir répondre de leurs actes devant une justice internationale, voire même une justice pénale internationale s'il le faut, parce que cela commence à vraiment à s'assimiler à un des crimes les plus graves, tels que le crime contre l'humanité ou des crimes de guerre, à partir du moment où on touche véritablement à la survie de l'espèce humaine. Alors je vais bien au-delà, puisque je propose que l'on reconnaisse le crime d'écocide.
On va y revenir, bien sûr.
Voilà, et que le crime d'écocide pose de nouveaux concepts et de nouvelles valeurs, puisqu'il s'agirait de reconnaître finalement le droit de la nature à exister pour elle-même, dans le sens où, si effectivement la vie sur Terre, telle que nous la connaissons depuis 11 700 ans, est menacée, alors nos droits fondamentaux à l'eau, à l'alimentation, à l'habitat, à la santé, ne sont plus du tout garantis à l'avenir.
Mais la difficulté de l'affaire, Valérie Cabanès, c'est que il faut une véritable révolution, même pas des mentalités, une révolution philosophique. Vous écrivez par exemple au début du chapitre 1, votre livre est passionnant, vraiment il donne des tas de pistes de réflexion. Par quelle prétention sommes-nous arrivés à nous extraire du vivant, à nous considérer comme des électrons libres, indépendants et autosuffisants sur cette planète où nous sommes nés?
Oui, et il faut bien comprendre aussi que la manière dont le monde fonctionne aujourd'hui s'est fait sous une influence occidentale qui elle-même, Occident, s'est construit...
Sur un modèle économique, industriel.
Alors avant même ce modèle, parce que le modèle économique tel qu'il est, il n'est pas arrivé par hasard. Mmh. Il est arrivé par rapport à la manière dont l'homme se voit sur Terre. Et que ce soit dans notre culture judéo-chrétienne, puis ensuite la manière dont l'homme a été décrit, perçu durant le siècle des Lumières, dans les deux cas, il a toujours été posé l'idée que nous étions là pour se servir, que la Terre était un puits infini de ressources, que nous étions là pour dominer le reste du vivant, et pour asseoir notre suprématie, ça a construit toute notre pensée, ça a construit notre modèle de société, un modèle extrêmement hiérarchisé, de classe, de caste, ça a construit notre rapport aux autres êtres vivants, dans le sens où on ne les regarde finalement que comme des choses à transformer, à manger,
à utiliser
d'une manière ou d'une autre. Et ça a construit notre droit occidental qui s'est imposé au monde, c'est-à-dire un droit qui est devenu totalement anthropocentré. Alors bien évidemment, moi qui suis une juriste des droits de l'homme, je ne remettrai jamais en question le fait que il faut protéger les droits fondamentaux de l'homme, mais je crois vraiment que à l'heure actuelle, il faut repenser notre relation au vivant, et ce vivant fonctionne selon des règles écosystémiques. Il faut donc aujourd'hui que le droit prennent en considération le fait que ce principe d'interdépendance régit finalement le monde et que nous ne pouvons espérer nous en sortir si nous ne prenons pas en considération l'intérêt général de tous les êtres vivants.
Sept jours dans le monde.
Alors avant de reparler de l'état de la planète, Valérie Cabanès, revenons sur des propos rares et très clairs du chef d'état-major de Tzahal, l'armée israélienne, qui parle clairement d'une alliance avec l'Arabie Saoudite contre l'Iran. Jérusalem jeudi, Guilhem Deltaï.
Que le chef d'état-major de l'armée israélienne soit interviewé par un journal saoudien est déjà en soi le signe d'un rapprochement. Mais qu'Israël affiche sa disponibilité à échanger des expériences et des renseignements avec le royaume marque une étape inédite entre les deux pays qui n'entretiennent pas de relations diplomatiques. Le général Gadi Eisenkot justifie cette évolution par la nécessité de contrer les projets de l'Iran. Le pays représente la plus grande menace pour la région, affirme-t-il. Pour lui, le plan iranien est de contrôler le Moyen-Orient à travers deux axes chiites, l'un passant par l'Iran l'Irak, la Syrie et le Liban, l'autre reliant Téhéran à Bahreïn et au Yémen. Nous devons empêcher cela de se produire, estime le chef d'état-major. Et face à l'Iran, Gadi Eisenkot souligne qu'Israël et l'Arabie Saoudite ont des intérêts communs, tout comme d'autres pays arabes modérés, dit-il. Et le gradé israélien juge que le contexte international se prête à la formation de ce front anti-iranien sous le président américain Donald Trump. Nous avons l'opportunité de former une nouvelle alliance internationale dans la région, déclare-t-il.
Et c'est dans ce contexte que Saad Hariri, l'ancien premier ministre libanais, arrive à Paris aujourd'hui, après un séjour de 2 semaines en Arabie Saoudite. Notez que selon l'Iran, les positions partiales de la France envers Téhéran menacent la stabilité et la paix régionale. Fin de citation. À suivre donc cela dans nos journaux. L'actualité internationale, c'est aussi un nouveau veto russe à une prolongation du mandat des experts qui enquêtent sur les attaques chimiques en Syrie. La perte, selon Washington, de 95% des territoires conquis par l'organisation de l'État islamique en Irak et en Syrie. Je rappelle la prise de Rawa hier en Irak, jusqu'ici sous contrôle des djihadistes. Et la dissolution du principal parti d'opposition au Cambodge par le gouvernement de Hun Sen. Hun Sen qui est au pouvoir, rappelons-le, depuis 32 ans.
Une semaine d'actualité.
Valérie Cabanès, revenons sur l'état de la planète et sur les travaux de la COP23 à Bonn ou les petites îles du Pacifique, pour ne parler que d'elles, se sont fait entendre. Reportage d'Agnès Rougier.
Pour que les négociateurs n'oublient pas leurs souffrances, les ressortissants des petites îles du Pacifique ont déroulé mercredi matin une bannière rouge et blanche de 50 mètres de long, demandant qu'on arrête d'extraire les énergies fossiles. Joseph Sokoulou vient du royaume de Tonga, constitué de 170 îles. Il fait partie des Pacific Island Warriors, une organisation militante présente dans 12 pays insulaires du Pacifique.
Un des grands problèmes auxquels les populations des îles du Pacifique font face en ce moment est la sécurité alimentaire. La montée du niveau de la mer renforce les désastres naturels comme les grandes marées et l'eau de mer finit par polluer le peu d'eau potable que nous avons.
Pélénisée Alofa, elle, vient des îles Kiribati. Son île ne dépasse que de 3 mètres le niveau de la mer et depuis peu, cet endroit calme est régulièrement submergé par de grosses vagues qui forcent la population à se sauver. Alors, qu'attend-elle de cette COP23 ?
Nous attendons plus d'aboutissements concrets de ces négociations. Elles durent depuis 23 ans et nous n'avons jamais vu de solution en sortir. Ils vont continuer à discuter, mais personnellement, je pense qu'ils devraient arrêter les négociations et dire qu'en 2020, tout devrait déjà être mis en place, tout ce qu'on doit faire. C'est ça notre solution, c'est tout.
Les délégués des îles Tonga et Kiribati sont venus à Bonn pour pousser les négociations, mais rien ne dit que les prises de décision soient assez rapides pour sauver les îles.
Cette semaine, mercredi précisément, la France et l'Allemagne ont fait entendre aussi leur voix. La France et son nucléaire et l'Allemagne son charbon. Mais les ONG demandent à ces deux pays des actions concrètes. Concret est le mot-clé. À Bonn, retrouvons cette fois Christine Siebert.
Face à l'urgence climatique, les ONG demandent à Angela Merkel et à Emmanuel Macron de rendre l'accord de Paris concret. Pour Pierre Canet du WWF, la France doit donner l'exemple aux pays signataires.
Qu'il s'agisse de l'alimentation et de l'agriculture, qu'il s'agisse de la mobilité et des transports, avec une loi qui devrait arriver début 2018, et l'énergie avec la programmation pluriannuelle de l'énergie, où normalement devrait donc être discuté concrètement comment on fait, quelles centrales on va fermer, et quel pourcentage d'énergie renouvelable, et quels moyens on donne pour développer les énergies renouvelables en France.
Côté allemand, les ONG interpellent la chancelière allemande sur la sortie du charbon. Christiane Haverbeck est la directrice du réseau Klimaallianz Deutschland.
L'Allemagne n'atteindra pas ses objectifs de réduction d'émissions pour 2020 parce que nous ne nous attaquons pas au sujet brûlant de la sortie du charbon. Il faut que nous fermions aussi vite que possible les centrales les plus anciennes et les plus polluantes.
Le couple franco-allemand doit non seulement montrer l'exemple, il doit aussi pousser l'Union européenne à prendre la tête des négociations internationales sur le climat, estiment les signataires de la lettre.
Nous sommes toujours en compagnie de Valérie Cabanès qui vient d'écrire Homo Natura, en harmonie avec le vivant, une réflexion sur l'état de la planète et comment faire pour l'améliorer, surtout pour nous sauver, tout simplement. Alors je vous ai vu écouter très attentivement tous ces reportages, Valérie, et notamment tout ce qui concerne l'Arabie Saoudite, Israël, Arabie Saoudite, ça sent le pétrole, ça sent l'énergie fossile, c'est ça ?
Oui, ça le sent un peu trop encore. Très clairement, on voit bien que là, on est encore sur un risque de tension internationale, voire même de conflit, qui se joue autour du contrôle des énergies fossiles. Quand nous savons aujourd'hui que pour rester en deçà d'un réchauffement de 2 degrés, ces énergies fossiles, il faut là, maintenant, tout de suite, les abandonner. Donc, je dirais même que l'attitude de la France diplomatique, si je puis dire, c'est une façon de parler, en accueillant Hariri, je comprends très bien l'importance de donner un asile, mais en revanche, le signal diplomatique qui est donné montre bien que nous sommes nous aussi encore très attachés à préserver cette énergie qui est une énergie du passé.
Attachés aussi à préserver, parce que c'est au cœur, il faut en parler, c'est au cœur de votre livre, la notion d'État aussi. Hein. Vous sourciliez en entendant, vous le saviez d'ailleurs, que la Russie avait mis son veto une nouvelle fois à la prolongation du travail des inspecteurs
sur le gaz sarin,
etc., en Syrie.
Oui.
Les États. Vous, la juriste que vous êtes, veut renverser en fait la donne.
Alors, c'est pas que je remets en question la forme que représente l'État en tant que forme politique, parce que effectivement, quand une population est nombreuse, il faut effectivement une institution qui puisse assurer finalement la redistribution des richesses et les services publics. En revanche, ce qui me gêne énormément depuis les années 70 et qui a mis en péril finalement le projet fabuleux qu'était l'ONU à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, c'est que les États aujourd'hui semblent d'une part de plus en plus sous la coupe d'intérêts économiques, défendent leur précaré économique, c'est ce qui permet à Trump de justifier de vouloir sortir de l'accord de Paris en disant que ça va être mauvais pour sa croissance, pour son économie et pour l'emploi. Et l'État aujourd'hui donc ne défend plus un intérêt général, et la communauté internationale que devrait représenter l'ONU n'est plus du tout sur un axe de comment maintenir la paix et comment s'assurer que finalement nous soyons d'abord des citoyens de la Terre avant d'être des citoyens d'un pays, en s'accordant sur des valeurs universelles, des valeurs communes. L'État aujourd'hui est sous l'influence directe du pouvoir des multinationales qui parfois ont des chiffres d'affaires qui dépassent les PIB de certains États. Elles deviennent extrêmement puissantes et elles ne sont pas assujetties aux mêmes obligations internationales que les États. Elles sont là pour défendre l'intérêt de leurs actionnaires et donc elles ne portent pas en soi les mêmes préoccupations que les États devraient porter. Et là, il y a un glissement à l'heure actuelle où finalement l'intérêt des peuples et l'intérêt de la nature sont mis au second ordre de l'ordre international, si je puis dire.
Priorité donnée à la liberté du commerce.
La liberté du commerce, même l'article 3.5 de la déclaration de Rio, qui était quand même une déclaration au sommet de la Terre, pose le fait qu'il ne doit pas y avoir de discrimination vis-à-vis du commerce dans la protection de l'environnement et dans la lutte contre le réchauffement climatique. Le Conseil constitutionnel en France l'a encore rappelé dernièrement. Et là, c'est un vrai problème, parce que si, effectivement, je reviens sur la France et sur ce qui a été dit par Emmanuel Macron à l'issue de la COP23, si d'un côté, on ne prend pas en compte dans le calcul des émissions de gaz à effet de serre, les émissions de l'aviation, du transport maritime, qui sont les vecteurs du commerce international. Si l'on ne prend pas en compte les émissions à l'importation, la Chine est notre usine. Alors, quand la Chine produit de la pollution et des gaz à effet de serre avec ses usines, ça va être comptabilisé dans le bilan chinois, mais pas du tout dans le bilan de la France, où les citoyens, eux, vont aller acheter les vêtements qui auront été produits dans ces usines. Donc, il y a là encore vraiment une forme d'hypocrisie dans la manière dont les États s'engagent à respecter la limitation des gaz à effet de serre.
Donc il faut aussi une conscience mondiale de la chose, et non pas une conscience à chaque fois par nation, par
absolument.
État.
Donc il faut absolument aujourd'hui qu'on prenne conscience que ce qui se passe ailleurs dans le monde à un moment donné ou un autre nous affectera, et que notre comportement a un impact ailleurs, et que donc à l'heure actuelle, les décisions qui soient prises pour l'avenir de l'humanité soient prises au regard justement de cet intérêt supérieur commun, et non pas en fonction de l'intérêt des États qui se dressent les uns finalement contre les autres pour protéger une population, une nation. Et alors, je ne parle pas du jour où des centaines de millions de migrants demanderont asile et où nous aurons construit finalement des murs qui vont créer un chaos planétaire.
Valérie Cabanès, on va rester optimiste hein, malgré tout. Nous allons faire un point sur les événements de ces dernières heures. Je ne sais pas si c'est ça qui nous rendra optimiste. Et on se retrouve dans quelques 3 minutes. À tout de suite. Merci pour toutes ces informations. On se retrouve, nous, pour revivre 7 jours d'événements avec la rédaction et notre invité, Valérie Cabanès, juriste, auteur de Homo Natura, en harmonie avec le vivant, un livre passionnant publié chez Bûcher Chastel.
Une semaine d'actualité.
Avant de partir pour le continent africain, une escale en France, avec la commémoration des attentats du 13 novembre il y a 2 ans à Paris et à Saint-Denis, au Stade de France, sur des terrasses du 11e arrondissement et au Bataclan, donc, reportage dans cette salle de concert, le Bataclan, Stéphane Lagarde.
Stéphane Albertini, Nick Alexander.
L'appel dénonce qu'en départ au parleur, ceux des 90 victimes mortes sous les balles des terroristes dans la fosse du Bataclan le 13 novembre 2015. Devant la salle de concert, des chaises pour les familles, les rescapés. Présence aussi des premiers arrivés sur les lieux. Il y a 2 ans, forces de l'ordre, pompiers, infirmiers, à qui la cérémonie rend également hommage. Et puis, derrière les barrières, des centaines d'anonymes comme Randall, venu des États-Unis avec un bouquet de fleurs.
Je suis ici 2 années. À Paris, je suis musicien, so I will come every year to pay my respects to Paris and to.
Tous les ans, vous allez revenir ici. Oui. Impossible d'oublier également pour les riverains du Bataclan, Bonégan et Manteau Rouge, Diana, 71 ans.
J'ai mon ami Georges qui a perdu sa fille ici et j'habite à côté, donc je suis venue pour le soutenir moralement.
2 ans après, on n'oublie pas.
Ah non. Tous les jours, je passe devant et tous les jours, je pleure. Ça peut recommencer, il faut être vigilant, mais il ne faut pas avoir peur. Tout à l'heure, j'irai prendre un café au Bataclan.
Le café du Bataclan qui a réouvert sous la plaque commémorative où se sont recueillis le président de la République et la maire de Paris.
Valérie Cabanès, revenons maintenant sur l'état de la planète et à la tenue de la COP23 à Bonn qui s'est achevée hier. Écoutez, par exemple, le coup de colère de l'écologiste Pascal Canfin, le directeur général de WWF France, après l'intervention d'Emmanuel Macron dans cette conférence, colère à cause du nucléaire.
Quand vous êtes dans une loi de transition énergétique qui enfin encadre le nucléaire pour la première fois en 40 ans, et que vous reportez sine die cette échéance-là, vous faites un cadeau extraordinaire à une industrie en faillite, et vous renvoyez l'énergie, les énergies renouvelables, comme la maîtrise de l'énergie, à la portion congrue. Parce qu'ils auront beaucoup moins de financement, et parce que, encore une fois, quand vous avez un mammouth dans un ascenseur, vous n'avez pas de place pour les autres. Ça n'existe pas.
Il a parlé de fétiche irréaliste.
C'est quoi le fétiche irréaliste? C'est de défendre à ce point le nucléaire? Pardonnez-moi, Emmanuel Macron, ministre, il a défendu l'EPR, les EPR d'Hinkley Point, contre une grande partie des analyses financières, des experts énergétiques, y compris une partie de la direction d'EDF qui a démissionné. Aujourd'hui, on nous explique en permanence qu'on ne peut pas se passer du nucléaire. C'est une folie. Les renouvelables sont 2 fois moins chères.
Suite d'une semaine d'actualité en compagnie donc de Valérie Cabanès, vous partagez, j'imagine, l'avis de Pascal Canfin.
Oui, je le partage. Alors, plusieurs choses à dire dessus. D'une part, effectivement, il faut bien comprendre, hein, malgré ce que Emmanuel Macron a dit, que nous sommes très en retard sur nos objectifs en termes de développement des énergies renouvelables. Nous sommes à 15,7% au lieu de 18% en 2016. Quand on voit qu'il faut 70 milliards d'euros au moins pour rénover notre parc nucléaire vieillissant, ouais. Je rappelle quand même qu'on est le 2e pays le plus nucléarisé au monde, 58 réacteurs, et la plupart des centrales sont aujourd'hui en fin de vie. Si on investissait ces 70 milliards d'euros dans la filière renouvelable, on créerait d'autant plus de l'emploi, sans compter que le démantèlement des centrales sera aussi source créatrice d'emplois. Et je voudrais quand même insister sur une chose qu'on ne dit plus assez, je trouve, c'est la dangerosité de l'énergie nucléaire. Nous allons chercher l'uranium dans des pays comme le Niger, où nous puisons des ressources d'eau fossiles, c'est-à-dire non renouvelables, privant les populations d'eau. Nous contaminons autour d'eux, autour de leur territoire, durablement l'environnement, parce que ces mines d'uranium sont extrêmement dangereuses. Et nous n'avons pas réglé du tout le problème de la gestion des déchets nucléaires. Et quand on voit qu'aujourd'hui il y a des mafias, la mafia italienne qui est en train de récupérer ce marché criminel et va enfouir en pleine Méditerranée des fûts de déchets radioactifs, sachant que dans la Manche à l'heure actuelle, nous avons l'équivalent d'un accident nucléaire majeur par an en termes d'émissions radioactives du fait de l'érosion des fûts que nous avons mis dans l'eau. Donc on a une approche du nucléaire sous prétexte que c'est un savoir-faire français, soi-disant, qui est là aussi dans le déni de ce que représente cette énergie, qui après tout, on pourrait la considérer d'ailleurs comme une énergie fossile, puisque l'uranium est un minerai et qu'on va la chercher sous terre.
Et la France qui a du mal à sortir de ce nucléaire, qui n'a pas anticipé en fait.
Elle ne l'a pas anticipé, elle continue, on le voit bien, à soutenir cette industrie, comme on, d'ailleurs on continue à soutenir, je dirais, Total, qui ne paye pas d'impôts en France sur le chiffre d'affaires qu'il fait sur les fossiles. Donc il y a vraiment un double discours qui ne va pas. Et c'est un double discours qu'on retrouve à l'échelle du monde, puisque le FMI nous a annoncé qu'il y avait 5300 milliards de dollars qui étaient encore attribués en subventions aux énergies fossiles dans le monde par an, ce qui montre bien que dans les faits, les banques, les États continuent à subventionner les énergies fossiles.
Un autre chiffre qui va sans doute vous mettre en colère, mais vous restez calme malgré tout, Valérie Cabanès. Claude Angéli, dans le Canard enchaîné cette semaine, nous rappelle que le Pentagone estime à 6 000 milliards de dollars le coût des guerres américaines en Afghanistan, en Irak et en Syrie depuis 2001.
Oui.
6 000 milliards.
6 000 milliards, mais que ce soit... Oui. À chaque fois, effectivement, quand on regarde d'une part la concentration des richesses qui est en train de s'opérer, quand on voit l'argent qui est dépensé dans l'armement et dans la quête aux ressources, parce que les guerres sont des conquêtes pour les ressources, quand on voit aussi, et je rappelle quand même que le conflit en Syrie a démarré sur 3 ans de sécheresse, que la plupart des nouveaux conflits sont en lien avec l'eau et avec le changement climatique, il est vraiment temps de considérer aujourd'hui que un des nouveaux crimes contre la paix et la sécurité humaine est le fait de détruire véritablement la vie telle que nous la connaissons et les conditions de vie des générations futures.
Parlons un peu de notre affaire à tous. Valérie Cabanès, c'est une organisation dont vous vous occupez ?
Oui, c'est une association que j'ai cofondée avec Marie Toussaint et d'autres juristes en août 2015, juste avant la COP. Parce qu'il nous est apparu qu'il fallait que nous continuions notre engagement à essayer de faire en sorte que le droit international évolue et le droit pénal international évolue avec la reconnaissance du crime d'écocide. Mais il fallait aussi que les citoyens puissent interpeller la justice dans leur propre pays pour rappeler à l'ordre l'État face à sa responsabilité initiale, historique, de protéger les populations et les territoires. Et donc nous travaillons véritablement à chercher les écueils, les manquements de l'État face à ses engagements climatiques, face à la non-protection des communs planétaires que sont l'atmosphère, les océans. Et nous travaillons à l'heure actuelle à un recours contre l'État, justement pour rappeler à l'ordre et demander au juge de se positionner sur le fait que l'État français ne respecte pas suffisamment ses engagements climatiques. Et dans ce cadre, nous avons d'ailleurs interpeller l'État avec 5 requêtes et nous attendons sa réponse. Nous lui demandons d'inscrire la protection du climat dans la Constitution, puisqu'il va y avoir une réforme de la Constitution prochainement, d'être en capacité de pénaliser les entreprises pollueuses, parce que je rappelle quand même que 100 firmes multinationales savent depuis 1988, c'est-à-dire la date où le GIEC a expliqué que nous étions en train de provoquer un changement climatique, savent donc les conséquences de leurs décisions, et elles sont responsables aujourd'hui de 71% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Donc de reconnaître le crime d'écocide dans ce cadre-là, de pouvoir permettre aux citoyens de défendre le climat en justice, de réduire vraiment nos émissions, c'est-à-dire, comme je l'ai expliqué plus tôt, de comptabiliser les émissions importées, et puis enfin de réguler le secteur privé et de sortir des énergies fossiles, et donc d'arrêter de subventionner, comme nous le faisons aujourd'hui. Par exemple, la Banque publique d'investissement a soutenu encore des projets gaziers d'un montant total de 450 millions d'euros au premier semestre, et nous avons en Europe encore 50 centrales à charbon qui sont en projet et en construction.
Écrire par courriel semaine.actu@rfi.fr.
Alors nous partons pour l'Afrique, Valérie Cabanès, c'est notre adresse électronique. Continuez bien sûr à nous écrire et à la page Une Semaine d'Actu de Facebook également. Un salut aujourd'hui à Mohamed Ibrahim qui nous écoute à Béché au Tchad, à Mohamed Moussa qui lui nous écoute au Nigeria. Bonjour à Janvier à Goma en RDC, bonjour à Raymond à Accra et à Alfred à Lomé. Je salue également Archiduc Théodore qui, lui, nous écoute à Djamena. À propos de ce qui se passe au Zimbabwe, nous allons en parler dans un instant. Il écrit ceci, c'est un signal fort envoyé aux dirigeants africains esclaves du pouvoir avec népotisme et corruption sommaire, fin de citation. Alors que pour Nestor à Bounia, en RDC, qui plaide, dit-il, pour une transition apaisée dans le pays, cette situation est une fabrication de certains services secrets occidentaux qui traquent Mugabe depuis plusieurs années suite à son franc-parler, là aussi, fin de citation.
Une semaine d'actualité.
Et direction l'Afrique maintenant, Valérie, au Zimbabwe, après l'intervention de l'armée dans la nuit de mardi à mercredi. Premier visé, évidemment, Robert Mugabe, placé en résidence surveillée, dont il faut retracer le long parcours, 93 ans dont 37 au pouvoir, Karine Franck.
Les images de ses siestes en pleine réunion internationale ont fait le tour du monde. Il était devenu une sorte de caricature du vieux dirigeant africain qui s'accroche au pouvoir. Robert Mugabe conserve pourtant une certaine aura en Afrique. Quand il devient Premier ministre en 1980, 7 ans avant de devenir chef de l'État, Robert Mugabe est accueilli en héros de l'indépendance. Il a passé 10 années en détention, dirigé la lutte contre le pouvoir rhodésien, blanc et ségrégationniste. Il joue d'abord la carte de la réconciliation. Robert Mugabe incarne alors la réussite d'une Afrique indépendante. Il est salué dans les capitales occidentales qui préfèrent fermer les yeux sur les premières vagues de répression, notamment dès 1982 quand l'armée met fin à la contestation du Matabeleland dans le sud-ouest, faisant près de 20 000 morts. Dès le début des années 2000, Robert Mugabe change de cap. Il met en place les grandes réformes de la redistribution des terres. Elles s'accompagnent de violences qui contraignent la plupart des fermiers blancs à quitter le pays. C'est le temps des diatribes anti-impérialistes, des élections qui n'en sont pas, de la ruine financière, des pénuries alimentaires. Mais Robert Mugabe reste sourd aux critiques, il paraît indéboulonnable. Était-ce l'une de ses provocations habituelles? Il avait promis un jour de fêter ses 100 ans au pouvoir.
La situation au Zimbabwe est à suivre bien sûr dans nos journaux. Notez les manifestations prévues aujourd'hui à l'appel du club des anciens combattants de l'indépendance, club très puissant. À retenir aussi dans l'actualité africaine, le prolongement pour un an à l'unanimité du Conseil de sécurité de l'ONU du mandat de la MINUSCA, la mission de l'ONU en Centrafrique, avec 900 soldats supplémentaires qui viennent s'ajouter aux 10 750 casques bleus déjà sur place. Et l'élection présidentielle au Somaliland, ce territoire de 4 millions d'habitants qui a déclaré son indépendance en 1991, mais n'est pas reconnu par l'ONU. Sachez aussi qu'en Angola, la PDG de la Compagnie pétrolière nationale, Isabel Dos Santos, la fille de l'ex-chef d'État José Eduardo Dos Santos, est symbole, s'il en est, du népotisme reproché à son régime, a été limogé mercredi par le nouveau président angolais. Partons pour la République démocratique du Congo maintenant, avec le premier appel à la mobilisation de l'opposition et de la société civile depuis l'annonce du calendrier électoral. Journée ville morte donc mercredi dans plusieurs grandes villes et à Kinshasa, la capitale. Envoyé spécial Florence Maurice.
Il y a ceux qui sont restés chez eux par peur des troubles.
Beaucoup de gens ne sont pas sortis de leur maison. Même nos enfants ne sont pas partis à l'école parce qu'on avait entendu qu'il y aura des protestations. On n'a pas voulu faire sortir nos enfants de peur qu'ils paillent mourir à l'école.
Et ceux qui ont ouvert leur boutique par peur de la police.
Mais la police est venue pour me dire que si on n'ouvre pas la boutique, on va les fermer. On va mettre le cadenas. C'est pour ça que j'ai ouvert comme tous les jours.
Sans oublier tous ceux qui ont beau critiquer ouvertement le calendrier électoral, mais ne voyaient pas l'intérêt de cette journée.
L'appel là, c'est pour aboutir à quoi, je ne sais pas. On a vu, on a vécu, on a subi de villes mortes qui n'ont rien changé. Les Congolais vivent au quotidien, chaque jour il faut travailler pour gagner quelque chose à manger. Et quand vous restez à la maison et que la ville est morte, n'a rien changé. qui paie.
Au final, difficile donc à Kinshasa de mesurer le degré d'adhésion au mot d'ordre lancé par la Lucha. Après des débuts timides, la ville a repris son rythme normal au fil de la journée sous l'œil de la police déployée aux principaux carrefours de la ville.
Que disent les policiers là qui circulent ?
Ils vont disperser les gens, c'est ça qu'ils disent seulement. Dispersez-vous, dispersez-vous, ne vous mettez pas là-bas, dispersez-vous, c'est ça qu'ils disent.
La MONUSCO, qui avait appelé au respect du droit de manifester, n'a déploré aucun incident majeur au cours de cette journée.
Une semaine d'actualité.
Avant de vous retrouver, Valérie Cabanès, repartons à Bonn pour la fin de la COP23. Je rappelle qu'elle était présidée par la République des Fidji, un état insulaire du Pacifique, et l'Allemagne aussi. Et plus de 25 000 négociateurs et observateurs climatiques y étaient réunis. Pas de grandes avancées, on l'a dit. C'est ce qu'a reconnu en tout cas jeudi le ministre français de l'Environnement, Nicolas Hulot.
On n'est pas sur la trajectoire des 2 degrés, ça a été rappelé d'une manière assez claire par 15 000 scientifiques. Donc il ne faut pas s'accoutumer au fait qu'on n'est pas sur la trajectoire, il faut au contraire maintenant réagir. Et je pense que c'est le message commun qui a été entendu ici, il faut qu'il soit maintenant confirmé et traduit en actes en 2018 à la COP en Pologne. Et là, je pense qu'on a pris acte de ça. Il faut que les États les plus émetteurs, à commencer par nous, nous rehaussions nos ambitions. Donc il faut un sursaut d'ambition. Voilà. C'est pas que c'est une petite COP, c'est une COP de transition. C'est une COP d'évaluation. C'est une COP où on a mis en place ce qu'on appelle le dialogue de facilitation, qui va permettre d'établir en toute transparence la situation, les trajectoires, l'évaluation des engagements des uns et des autres. Et à partir de là, eh bien, se mettre en situation de répondre à la COP24. Par les nouvelles ambitions et les nouveaux engagements des États.
Alors Valérie Cabanès, on ne va pas revenir sur la COP23, on en a beaucoup parlé depuis le début de l'émission, mais je voudrais qu'on s'appuie sur votre livre pour évoquer notre destin possible que vous voudriez éviter, nous aussi. Hein, il s'agit de sauver la vie sur la planète, et vous rappelez d'ailleurs que, là je vous cite, si l'Homo sapiens existe depuis environ 200 000 ans, la vie sur Terre elle a au moins 3,7 milliards d'années, la Terre a déjà connu 5 extinctions massives d'espèces atteignant parfois 90% des êtres vivants, pourtant la vie s'est toujours relevée. C'est-à-dire que ce qui est en cause là, c'est pas la Terre, c'est la vie sur Terre.
Oui, la vie renaît toujours de ses cendres. En revanche, si l'humanité a pu se développer au point qu'aujourd'hui on parle de surpopulation, c'est bien parce que nous avons trouvé depuis 11 700 ans, c'est-à-dire depuis la dernière ère glaciaire, des conditions exceptionnelles climatiques et qui ont permis ce foisonnement de biodiversité, cette vie foisonnante que nous sommes en train de mettre en péril et qui fait que dans les décennies qui viennent, parce que nous avons franchi un certain nombre de limites planétaires, nous rentrons dans une zone tout à fait inconnu pour nous, où nous ne serons probablement, en tout cas pour la grande majorité des humains, pas en capacité de nous adapter assez rapidement, pas plus d'ailleurs que les plantes, les arbres, les animaux qui ont à migrer ou à muter pour pouvoir survivre dans de nouvelles conditions. Et habituellement, ce qui s'est passé depuis l'histoire de la vie sur Terre, c'est que quand il y a eu ces extinctions, quand la biodiversité a disparu, il a fallu des millions d'années pour qu'elle se reconstitue à son état initial. Donc, nous avons provoqué en moins de 200 ans un changement quasiment d'ère géologique qui met des milliers d'années à se mettre en place, et nous sommes en train de provoquer donc véritablement une nouvelle ère.
C'est ce qu'on appelle l'anthropocène.
C'est ce qu'on appelle l'anthropocène, qui n'est pas encore officiellement reconnu et qui se discute encore, mais ce qui est clair, c'est que il est impératif de comprendre que nous allons devoir nous adapter à une situation totalement nouvelle pour nous.
Vous dites en quelque sorte qu'il s'agit aussi pour l'humain de se reconnecter à la nature. Hein. Pour les peuples premiers, parce que vous faites aussi l'éloge des peuples premiers, toute population qui vit sur un territoire donné est l'un des éléments d'un écosystème local dont il doit garantir la pérennité. C'est-à-dire rebrancher, dirais-je familièrement, l'homme et la nature, en tout cas en Occident.
Oui, c'est joli, rebrancher. Je vais même faire une analogie. Je crois que l'Occident, enfin en tout cas notre culture, nous a amené à regarder les étoiles et à en fait étendre comme l'arbre nos branches vers le ciel de plus en plus haut. Sauf que nous avons oublié que nous sommes quand même des êtres incarnés sur une terre, et que comme l'arbre, si nous plongeons pas nos racines aussi profondément que nous développons nos branches, alors au moindre coup de vent, nous allons sombrer. Donc il nous faut effectivement, comme les peuples premiers, à mon sens, reconsidérer notre place dans le vivant, Vous savez, les peuples premiers n'ont pas cette notion de propriété. Ils considèrent que la terre est une forme d'usufruit, qu'elle doit être, les ressources naturelles doivent être partagées entre tous les êtres vivants dans un même écosystème, parce que tout le monde a besoin de tout le monde. Et le fait de ne pas se sentir propriétaire et de ne pas être dans une attitude d'accumulation mais de partage change complètement notre rapport au monde.
Parce que votre réflexion est aussi une réflexion sur la propriété, hein, Valérie Cabanès. Alors venons-en à cette notion d'écocide. Comment pourrait-on le définir exactement?
Alors,
penser à génocide par exemple, c'est-à-dire la volonté délibérée d'exterminer une population.
Vous savez, dans l'article 30 du statut de Rome, qui définit la Cour pénale internationale, il existe deux notions. Il existe effectivement cette notion que nous connaissons tous, qui est qu'un crime est commis de façon intentionnelle. Mais vous comprenez bien que si on veut réguler l'activité industrielle aujourd'hui, via la responsabilité des dirigeants politiques ou des dirigeants économiques, vous n'arriverez jamais à prouver qu'un dirigeant, intentionnellement, par le fait de subventionner par exemple les énergies fossiles, veut nuire à l'humanité. Donc il faut utiliser l'alinéa 2 qui pose le fait que si l'on agit en connaissance des conséquences probables de ces décisions, on peut aussi être considéré comme potentiellement criminel.
Ce qui est le cas aujourd'hui d'ailleurs, parce que l'information est partagée, on sait.
L'information est là, c'est ce que je disais tout à l'heure, les entreprises qui polluent le plus au monde sont conscientes de ce qu'elles sont en train de faire, et quand nos dirigeants politiques traînent des pieds comme ils le font depuis quelques années, et cette COP vient de le démontrer encore une fois, je trouve qu'ils prennent une responsabilité extrêmement grave vis-à-vis de l'avenir de nos enfants demain. Et donc, il est impératif que nous posions dans le droit, à l'heure actuelle, le fait que une décision qui puisse nuire à la sûreté de la planète, qui puisse nuire à l'habitabilité de la Terre, et nuire finalement à tous les êtres vivants, parce que ce principe d'interdépendance dont je parlais au regard de même de la philosophie des peuples premiers est essentiel à comprendre, puisse répondre de ces décisions. Pour ça, il faut poser un panneau, comme on l'a sur les routes. Quand vous dépassez le panneau à 50 km/h, vous savez que vous risquez d'être arrêté, vous pouvez toujours essayer de le dépasser. On n'arrivera jamais à arrêter tous les criminels du climat ou de l'environnement. En revanche, si on avait un droit qui soit plus dissuasif, qui soit plus contraignant, je vous rappelle que l'accord de Paris n'est même pas un traité contraignant, alors peut-être que cela changerait la donne. Et pour cela, il est aujourd'hui impératif de renverser l'échelle de normes, c'est-à-dire de considérer que les droits de la nature sont un prérequis pour pouvoir préserver les droits fondamentaux humains, et que le droit commercial, qui n'est finalement qu'une émanation des relations humaines, s'assujettissent aux deux autres niveaux.
Alors, pour terminer sur une note optimiste, Valérie Cabanès, il faut noter quand même que dans le monde entier, sur le terrain, comme on dit familièrement, il y a des initiatives qui vont dans ce sens. Hein. Il y a une prise de conscience, aussi bien dans le domaine économique, industriel, que dans le domaine aussi de respect des animaux et de la nature, globalement.
Oui, absolument. Il y a de vrais débats qui sont en train de surgir sur le bien-être animal. Sur moi, ce qui m'a beaucoup intéressée durant l'année 2017, c'est deux niveaux. C'est le premier, c'est le nombre exponentiel de reconnaissance des droits de la nature, oui. Soit par des parlements, soit par des cours de justice, soit directement par des États qui décident de reconnaître les droits de la nature dans leur constitution. Donc, très rapidement, je vous rappelle que le premier était l'Équateur en 2008. La Bolivie a ensuite, en 2009, adopté une loi s'adossant à la constitution reconnaissant les droits de la nature. Le Mexique vient de le faire en janvier 2017. Et au-delà, dans d'autres types de cultures, puisque là, nous sommes quand même en Amérique du Sud, Amérique latine, donc dans des sociétés multiculturelles, multiethniques. Une haute cour dans un état du nord de l'Himalaya en mars a reconnu la personnalité juridique du Gange, du fleuve Gange, de son affluent, puis de tous les écosystèmes himalayens sur son territoire. Le Parlement néo-zélandais a reconnu la personnalité juridique à un fleuve et à un parc en le plaçant sous le gardiennage des Maoris. Le fleuve Atrato en Colombie a aussi obtenu cette reconnaissance juridique. Et aujourd'hui, ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'aux États-Unis, donc pays occidental, 30 villes ont reconnu les droits de la nature dans leur législation locale. Et le fleuve Colorado vient de saisir la justice fédérale depuis septembre pour demander à ce que soit reconnue sa personnalité juridique pour qu'il puisse défendre son droit à exister, sa valeur intrinsèque face à la justice. Alors on parle souvent de ces cas-là dans les médias, encore que. Moi je voudrais revenir revenir, puisqu'on était tout à l'heure en Afrique, sur le fait que les peuples autochtones du continent africain sont aussi à l'avant-garde de cette reconnaissance des droits de la nature d'une manière un petit peu différente. Ils ont écrit en 2015 la Déclaration des communautés gardiennes africaines qui reconnaît la protection des sites sacrés et qui, sous l'influence de l'Afrique du Sud, l'Éthiopie, l'Ouganda, le Kenya, le Bénin, le Ghana, ont réussi à faire en sorte que des écosystèmes comme des chutes d'eau, des rivières, des forêts, des montagnes, des lacs puissent être préservés, protégés de l'exploitation industrielle. Et ils ont été suffisamment convaincants pour que la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples ait voté en mai dernier une résolution en ce sens. Et là aussi, c'est un pas en avant pour une reconnaissance finalement du principe unitaire de vie et une reconnaissance de notre lien matriarcal avec la Terre.
Donc voilà un message d'espoir. Tout n'est pas perdu.
C'est un grand message d'espoir. Oui. Voilà. Et puis le deuxième niveau qui pour moi il me semble très important, c'est la recrudescence des actions en justice citoyenne pour le climat.
On aura l'occasion d'en reparler dans ces prochains mois, Valérie Cabanès. En tout cas, je recommande vivement votre livre qui s'intitule « Homo Natura, en harmonie avec le vivant », publié chez Bûcher et Chastel, qui est une vraie réflexion sur ce que l'on doit faire aujourd'hui, ce que l'on pourrait faire pour inverser les priorités, en quelque sorte, au profit de la planète, c'est-à-dire au profit de la nature, de nous tous, parce que tout est lié, en harmonie avec le vivant, c'est le sous-titre de votre livre. Merci, Valérie Cabanès.
Merci beaucoup.
Une semaine d'actualité réalisée évidemment par Vanessa Sarovensky. Je vous retrouve demain pour le magazine Idée, le magazine qui interroge ceux qui pensent le monde. Nous parlerons de la notion de racine, d'identité avec Maurizio Bettini qui est professeur de philologie à l'université de Sienne. Il vient d'écrire un livre passionnant lui aussi sur ce sujet. Donc rendez-vous demain dimanche à 17h10, heure de Paris. Bon week-end, bonne semaine. Dans un instant, un nouveau journal sur RFI.